Merci beaucoup à Ernest pour l'invitation. Et je vois qu'il y a pas mal de héros aussi aujourd'hui parmi nous. Tous ceux qui ont vaincu le froid, qui malgré l'opposition sont présents. Dis à ton voisin, t'as bien fait de venir, tu vas être plus que béni. J'ai lu certains aussi, comme votre berger, il a dit qu'il y en a qui pêchent autant qu'ils respirent. J'en ai vu qui ont arrêté de respirer. Vous pouvez continuer à respirer, mais arrêtez de pêcher. J'ai plus à cœur de parler d'un autre sujet, et c'est un sujet qui est vraiment important. Parce que des fois, les gens viennent me voir et ils ont plein de problèmes dans leur vie, mais vraiment beaucoup de problèmes. Et des fois, le problème qui est la source de tous les problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils ont eu un mauvais départ. Un mauvais départ, il n'est pas bon. Et le thème dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est sur la nouvelle naissance. Il y a quelques mois de ça, j'avais un jeune homme qui est venu me voir. Il avait plein de problèmes et il vient d'une grande église, entre parenthèses évangélique. C'est une grande église qui est très connue. Les enseignements sont bons, la présence de Dieu est là, la louange est là, l'adoration est là. Et pourtant, ce jeune homme avait plein de problèmes. Et je l'ai pris en relation d'aide, ça veut dire que j'avais un entretien avec lui pour pouvoir l'aider à savoir où il y avait un blocage, où il y avait un problème dans sa vie, d'où c'est que le problème venait. Et d'un coup, dans mon cœur, j'avais une question. Et une question que je devais lui poser. Et la question était la suivante, écoutez bien. Est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit non. Il m'a dit non. Et ça, c'était son problème. C'est qu'il allait tous les dimanches à l'église depuis 8 ans. Il allait tous les mercredis aux réunions de prière. Il entendait la parole de Dieu. Il priait, il levait les mains, il chantait des chants de louange. Mais Jésus-Christ n'était pas son Seigneur. Et la Bible dit clairement que Jésus-Christ ne doit pas seulement être notre Sauveur, mais qu'il doit aussi être notre Seigneur. Et on va voir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 3, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Nicodème, il est chef des pharisiens, c'est-à-dire c'est un homme qui s'occupe de la loi, qui est très près de la loi, qui connaît la parole de Dieu, c'est comme maintenant un homme qui écoute, c'est comme un rabbin pratiquement, ou comme un prêtre, ou comme un curé, ou comme un pasteur. Et cet homme il vient voir Jésus et il lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Parce qu'il se rend compte qu'il a des pratiques religieuses, il a beaucoup de choses qu'il fait, mais il n'a pas la certitude, il n'a pas la conviction, il n'a pas l'assurance du salut. Et il dit à Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, Jésus lui répondit dans Jean 3, verset 3, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume de Dieu. La traduction exacte du grec est la suivante, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'en haut, ou si un homme ne naît pas de Dieu, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît pas surnaturellement de Dieu, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jésus, dans la parole de Dieu, Dieu dit dans sa parole dans l'Ancien Testament, « Je ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai mon esprit en vous. » Et c'est ça la nouvelle naissance. C'était une parole prophétique pour la nouvelle naissance de ce que Jésus allait faire. Il allait ôter notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair et mettre son esprit en nous. Un autre verset que Jésus dit dans Jean 3, verset 5 à 7, Jésus lui répondit « en vérité, si un homme ne né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et là, Nicodème lui dit, mais comment un homme qui est âgé, il doit de nouveau rentrer dans le ventre de sa mère? Mais là, il n'est pas question de rentrer dans le ventre de sa mère. Il est juste question que Dieu vienne habiter en nous. Que la divinité vienne habiter dans l'humanité. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et que nous devenons le temple du Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. C'est la divinité qui vient habiter dans l'humanité. Quand quelqu'un est né de nouveau, il devient citoyen des cieux. Et sa nature même, sa nature est céleste. Et ça, ça se voit. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur vos cœurs. » La circoncision du cœur se voit, se constate, s'inscrit dans un changement, dans une transformation. Vous avez entendu le berger ce qu'il disait ? Oui, c'est exactement dans la même lignée. C'était conduit par l'Esprit ce qu'il disait tout au début. Tout ce qu'il disait, ça confirme exactement ce message que je suis en train de vous partager. Ainsi, mon caractère change. Mon quotidien change. Mes centres d'intérêt changent. Mes relations avec les autres changent. Je deviens initiateur de la réconciliation dans mon couple, dans ma famille, dans mes amis. On voit qu'il y a un changement. Si tu es chrétien, un changement s'opère. C'est obligé. C'est obligé. Parce que tu as reçu un cœur nouveau. Ainsi, je prends conscience aussi en devenant chrétien que mon corps, ma vie, ma femme, mon mari, mes enfants, mes amis, mon travail, mes finances, mes projets, ma sexualité, ma santé ne m'appartiennent plus. Parce que j'ai été racheté à grand prix. La Bible, elle dit que j'ai été racheté à grand prix. Elle dit que j'ai été racheté par le sang précieux, pas juste par un sang, mais par le sang précieux, par le sang lui-même de Jésus, le sang de Dieu qui coulait dans les veines de Jésus. C'est un sang divin. C'est pour ça qu'on a pu être racheté avec ce sang. C'est pas juste le sang d'un homme. C'est un sang divin qui a coulé dans le sang de, qui était dans les veines de Jésus. C'est pour ça que la Bible, elle parle de sang précieux. Et nous avons été rachetés à grand prix. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on a de la valeur si on a été racheté à grand prix. Mais si nous vivons n'importe comment, c'est que nous ne sommes pas conscients souvent de la valeur que nous avons. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Moïse? Pourquoi Dieu a choisi Moïse pour libérer le peuple de l'Égypte? Dieu a choisi Moïse pour une raison. Parce que Moïse n'était pas et n'avait pas une mentalité d'esclave. Parce que Moïse a été élevé au palais du roi, du pharaon. Il avait une mentalité de roi. Il n'avait pas de mentalité d'esclave. Et c'est pour ça que Dieu a choisi Moïse. Uniquement un roi pour libérer les esclaves. Un esclave ne pourra jamais libérer un roi. Un roi, il n'a pas besoin d'être libéré, il est roi. Et Dieu veut qu'on pense comme des rois. Dieu veut qu'on ait une mentalité royale. Parce que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes des rois sur cette terre. Jésus est le roi des rois. Mais c'est qui les rois? C'est nous les rois. Mais tant que nous avons une mentalité d'esclaves, tant que nous pensons que Satan a des droits sur nous, a des pouvoirs sur nous, tant que nous croyons les mensonges de Satan, il pourra nous lier par les mensonges. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Comment est-ce que le diable peut nous avoir? Le diable a une seule arme, c'est le mensonge. Mais nous avons une arme qui est plus puissante. Et cette arme, c'est la vérité. Et il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a rien qui est plus fort que la vérité. C'est pour ça que quand on connaît la vérité, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais ce mot connaître, ce n'est pas connaître intellectuellement. Parce que beaucoup de gens connaissent la Bible, beaucoup de gens chantent des gens, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne vivent pas dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que connaître, pour un grec, c'est différent qu'un juif. Connaître, dans notre contexte à nous, dans notre éducation dans laquelle nous sommes, on connaît des choses. Et parce qu'on connaît des choses, parce qu'on sait des choses, on pense qu'on les connaît. Mais le mot grec, connaître, hébreu, connaître, c'est yada. C'est le même mot qui est utilisé quand Adam connut Ève. Ça veut dire qu'ils sont devenus un. Ça veut dire que tu commences à vivre dans cette vérité. Tant que tu ne vis pas dans la vérité, pour un juif, si tu ne vis pas ce que tu sais, tu ne le connais pas. Tu connais uniquement ce que tu vis. Ce que tu ne vis pas, tu ne le sais pas. Tu le sais peut-être, mais tu ne le connais pas. Alors ma question est, est-ce que tu sais ou est-ce que tu connais? Beaucoup de gens, ils viennent, ils disent, oui, nous savons que Dieu veut qu'on chasse les démons. Nous savons que Dieu veut nous utiliser pour guérir les malades. Mais si tu ne le sais pas, ça sert à quoi? Ça sert à rien. T'as juste une religion qui ne sert à rien. t'as une théorie qui ne sert à rien du tout. Vous comprenez cela? Ça ne sert à rien que tu saches que Dieu veut t'utiliser pour guérir les malades, pour chasser les démons, si tu ne mets pas en pratique. Si tu n'es pas un chrétien pratiquant, ça ne sert à rien. Non? Ok. Je vois que c'est calme, je dois parler à plusieurs. C'est comme un jour, j'évangélise dans la rue. J'annonce l'évangile à quelqu'un. Et la personne me dit, je suis catholique et pas pratiquant. Je dis, c'est merveilleux, moi je suis nudiste, mais je ne suis pas pratiquant. La personne me regarde comme ça, elle dit, mais c'est pas possible. Je dis, c'est pareil, vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas être pratiquant. Si vous êtes chrétien, vous êtes pratiquant, non? Je sais que je suis racheté à un prix immense, celui des souffrances de Jésus à la croix, et j'appartiens à présent à mon Maître, à mon Seigneur, Jésus-Christ. Je ne m'inquiète plus, je ne m'angoisse plus, j'ai confiance en l'avenir, j'ai foi dans les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Parce que nous sommes le peuple de la promesse, nous sommes le peuple des promesses de Dieu, et les promesses de Dieu c'est pour nous, et ces promesses sont oui et amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Amen. Mais des fois, il faut de la patience. Et je sais que vous êtes comme moi. Seigneur, donne-moi de la patience, mais tout de suite. Mais c'est par la patience et par la persévérance. Alors percez et vous verrez. Persévérez. Amen. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, l'homme naturel, il marche, l'homme qui n'est pas né de nouveau, il marche selon ses cinq sens, il marche selon ce qu'il voit, selon ce qu'il ressent, selon ce qu'il pense, selon les pensées de ce monde. Mais l'homme spirituel, il a renouvelé son intelligence, il pense comme Dieu veut, et c'est pour ça. Il y a plein de factures, il y a plein de problèmes qui viennent. Mais il prie. Il dit, Seigneur, je sais que tu vas t'occuper de ça. Et il y a une paix qui vient dans son esprit. Une paix que le monde ne connaît pas. Mais cette paix, elle vient de Dieu. Et cette paix, il faut apprendre à garder cette paix. Et à rester dans cette paix. Et le diable vient pour voler. Et il veut nous voler cette paix. Alors il va venir avec des inquiétudes. Il va venir avec des problèmes. Il va venir avec des difficultés. Mais nous, qui c'est que nous allons croire? Est-ce que nous allons rester dans cette paix? Cette paix qui est l'arbitre de la marche par l'esprit. La paix est le fruit de l'esprit qui permet aux autres fruits de l'esprit de rester ensemble. Quand vous êtes dans la paix, quand l'ennemi vient, le Dieu de paix a écrasé Satan sous vos pieds. La paix est une arme terrible dans le combat spirituel. Vous savez, les armes les plus puissantes dans le combat spirituel, c'est les fruits de l'esprit. Quand vous marchez par l'esprit, le diable ne peut rien faire. Quand la haine vient, vous répondez par l'amour. Quand l'angoisse vient, les tribulations viennent, vous êtes dans la paix. Wow. Vous êtes comme un roc. Comme dans le roc. Parce que vous êtes dans le rocher des siècles. Vous êtes en Christ et Christ est en vous. Et c'est là que vous êtes dans la paix. Il n'y a rien qui peut vous faire bouger ni à gauche ni à droite. Toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent, vous savez que si 1000 tombent à votre droite et 10 000 à votre gauche, vous ne serez pas atteint. Parce que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et tout temps qui s'élèvera contre nous, nous la condamnerons. Car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Et c'est comme ça que nous devons nous battre. Si nous sommes nés de nouveau, si Christ vit en nous, nous ne vivons plus comme le monde, nous vivons comme des chrétiens. Et on marche d'une manière complètement différente. Eux, ils s'inquiètent parce qu'ils reçoivent des mauvaises nouvelles. Mais nous, on ne s'inquiète de rien, on fait connaître nos besoins à Dieu, parce qu'eux, ils n'ont pas de Père qui s'occupe d'eux. Mais nous, on a un Père qui s'occupe de nous. Et notre Père est un bon Père. Amen. Et il pourvoit tous nos besoins avec richesse et gloire. Amen, amen. Alors ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. La circoncision de la chair, quant à elle, n'est pas une réelle conversion. Il ne s'agit pas de la nouvelle naissance et ne conduit pas à la vie éternelle. Je peux aller à l'église tous les dimanches. Pendant la semaine, je peux prier, je peux aller aux réunions de prière, mais je continue à vivre comme avant. C'est pas une nouvelle naissance. C'est un mauvais départ dans votre vie chrétienne. avec les mêmes habitudes. Je ne me sens pas concerné par la vision de Dieu pour l'Église. Là, l'argent aussi, c'est un signe aussi. Là où est ton trésor, là il y a ton cœur. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce que tu es propriétaire ou tu es gérant de ton argent? Rassurez-vous, détendez-vous, on va pas faire d'offrande. Hein. Vous pouvez respirer tranquillement, détendez-vous. Non, mais des fois, les gens, des coups, commencent à parler d'argent. Les têtes commencent à changer, les visages s'allongent, les yeux sont tristes, il y a l'esprit de tristesse qui vient dans la salle. Non, t'inquiète pas, on ne veut pas ton fric, on veut que tu sois sauvé. Amen. Il y a des gens aussi, ils lisent la Bible, ils prient, mais ils n'ont pas de révélation pour leur vie. Ils ne sont pas concernés. Ils croient qu'ils sont justifiés par leur rituel, parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils prient, parce qu'ils aiment peut-être même ils donnent des offrandes. Mais ce n'est pas ça qui te sauve. Ce que tu as besoin, c'est la nouvelle naissance. Galates 5, versets 18 à 24, est un signe si nous sommes réellement nés de nouveau. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ceux qui sont conduits au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Comme le disait votre berger, il y a des gens, peut-être vous allez encore voir des marabouts, je ne sais pas quoi. Là, pas loin d'ici, de l'hôtel, il y a un magasin d'ésotérique. Et je passais avec Jonathan devant ce magasin. Et je vois deux personnes que j'ai déjà vues dans des cultes sortir du magasin. Je me dis, non, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Qu'est-ce, deux personnes comme ça? Je suis pas allé les voir, j'ai dit, je pensais d'abord je vais aller les voir. Ça va, qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? Ça va, qu'est-ce que... c'était quoi là? Non mais franchement, vous savez, moi j'y suis allé dans ce magasin. Je dis, écoutez, j'ai des livres, ça vous intéresse? Et la femme me dit, oui, c'est bien essayer ça. Elle me dit, j'ai dit, écoutez, je repasserai le mois prochain. Ben, j'étais nouveau à Paris et je pouvais voir le patron et le patron était là. Il me dit, non, vous savez, ça on l'a déjà ici et ça. Je dis, bon, ils n'ont pas ça, vous savez. Il faut essayer d'amener la lumière là où les ténèbres. Vous savez, si j'avais pu amener ça là chez ces gens, les gens ils sont dans l'occultisme, tout ça, ils prennent mes livres, ils commencent à lire, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Je dis, mais au fin de compte, qu'est-ce que je fais dans ce magasin? Tout ce qu'il y a dans ce magasin, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Vous voyez, mais ça n'a pas marché. Bon, ça aurait pu marcher. Il faut essayer, non? Le cheval de Troie. Vous savez, des fois, les gens, ils disent, il ne faut pas aller là-bas, tu ne peux pas aller là-bas, tu ne peux pas aller là-bas. Celui qui est en moi est plus grand que le petit dans ce monde. Amen. On n'a pas à avoir de peur. On n'a pas à avoir peur. Si on peut toucher ces gens-là, gloire à Dieu, si on peut toucher ces gens, ils ont besoin de salut, Dieu les aime. Mais eux, ils ne savent pas. Vous savez, j'avais une amie comme ça, écoutez bien. J'ai une amie en Allemagne, elle est venue, pareil, elle avait plein de problèmes, elle était prof de Reiki, elle faisait du chamanisme, enfin elle faisait les 400 000 trucs dans l'occultisme à fond la manette. Et elle arrive chez moi à la maison, elle dit oui, bonjour, j'ai des problèmes, j'ai entendu que vous priez pour les gens et que les problèmes sont résolus. Je dis oui, mais pour vous je ne peux pas prier. Elle me dit, mais comment ça, vous ne pouvez pas prier pour moi? J'ai des problèmes dans mon couple, avec mon mari, et ci et ça, et j'ai plein de problèmes, et pas là, là, là. Je dis, mais je ne prierai pas pour vous, madame. Elle me dit, mais pourquoi vous ne priez pas pour moi? J'ai dit, je vais prier pour vous, mais il y a une condition. C'est que vous arrêtez tout ce que vous faites dans l'occultisme, et que vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Et après, je prierai pour vous. Elle dit, oui, mais moi, je vis de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, vous savez, ça sert à quoi de gagner le monde si votre âme, elle est perdue? Elle me dit, est-ce que je peux réfléchir? Je dis, autant que vous voulez. Elle me dit, bon, je prends 5 minutes et je reviens. Elle est partie, 5 minutes après, elle est revenue. Et elle a accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Elle a tout arrêté. Elle a tout arrêté dans l'occultisme. Elle a écrit un livre avec tout son témoignage. Il a été vendu plus de 3000 fois déjà en Allemagne. Elle est passée à la télé, elle a ouvert un, je ne sais pas si vous connaissez ça, les témoins dans le monde, ça s'appelle aussi les hommes d'affaires, les chrétiens témoins dans le monde, les hommes d'affaires du plein évangile. Elle a ouvert un truc comme ça, il y a plein de gens, elle amène plein de gens au Seigneur, et ainsi de suite. C'était vraiment une nouvelle naissance. Elle est réellement née de nouveau. Sa vie a été changée. Sa vie a été transformée. Littéralement, parce que son cœur a été changé. Dieu a pris son cœur de pierre, comme il a pris le mien, et il a mis un cœur de chair. Dieu attend de nous trois choses qui sont essentielles pour nous. Premièrement, notre relation avec Christ. Dieu regarde à la relation que nous entretenons avec son Fils. Nos résultats, nos performances, tout ce que nous faisons n'est d'aucun résultat si ça ne découle pas de notre relation avec Dieu. Vous savez, des fois vous parlez avec des gens dans la rue et vous leur parlez du Seigneur. Et ils vous disent, vous savez, moi, je donne aux pauvres, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Et ils pensent qu'ils sont justifiés par leurs œuvres. Mais en pensant cela, ils annulent l'œuvre de la croix. Parce que pourquoi Christ avait besoin de mourir s'il suffisait de faire des bonnes œuvres pour être sauvé? Vous comprenez? Et ça va de nouveau contre la croix. Et tout ce qui va contre la croix, c'est pas bon. Et Jésus dit dans Jean 15, verset 5, que nous serons incapables de porter du fruit si nous ne demeurons pas en lui et si nous refusons d'obéir à ses commandements. Vous voyez, dans l'Apocalypse 2, versets 2 à 4, Jésus félicite l'Église d'Éphèse pour son bon travail. Ils reconnaissent les faux prophètes, il y a plein de choses. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as quitté ton premier amour. Le plus important pour nous, le plus important pour Dieu, parce que c'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est une relation d'amour entre nous et Dieu. Et une relation d'amour entre Dieu et nous. C'est une relation d'amour. C'est pas des choses à faire, à pas faire, à pas faire. Quand on aime quelqu'un, on veut faire plaisir. Quand on aime Dieu, on ne va pas pécher parce qu'on a peur de recevoir des coups, on ne va pas pécher parce qu'on a peur des conséquences du péché. Mais on ne pêche pas parce qu'on aime Dieu et parce qu'on ne veut pas attrister son cœur de père. Vous saisissez la différence? La motivation n'est pas la même. Parce qu'on aime Dieu, on ne pêche pas. Et on sait en même temps que Dieu a le meilleur pour nous. Et si Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, Dieu est le péché. Pourquoi? Parce que le péché détruit celui et celle qu'il aime, c'est-à-dire toi et moi. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, si le diable vous présente une pomme, elle peut être très très belle, mais dès que vous mordez dedans, vous vous rendez compte qu'il y a un ver à l'intérieur. Quand vous mordez dedans, il y a un ver à l'intérieur. Un ver, vous savez, les vers de terre. C'est dégueulasse, vous vous rendez compte? J'aimerais bien que cette image reste. Parce que c'est les images qui nous parlent. Et les images restent dans nos pensées. C'est pour ça que je prêche souvent avec des images. Parce que je sais que ça va rester dans la tête des gens. Et quand la tentation va venir, et après je vais prêcher, le prochain message sera comment résister à la tentation. Quand la tentation vient, quand vous avez cette image, vous dites, purée, si je mords dedans, il y a un ver. C'est dégueulasse. Je ne vais pas mordre dedans. Ça va? Deuxièmement, notre motivation. Jésus disait aux pharisiens, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Retenez bien, pour en être vu. Ainsi, nos actions les plus spirituelles sont d'aucune valeur si c'est toujours pour être vu, pour être mis en avant, pour améliorer sa réputation. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Pas pour la gloire de l'homme, pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Le troisième point, c'est notre amour. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, alors votre récompense sera grande. Vous pouvez lire cela dans Luc 6 au verset 35. Quand nos bonnes actions seront évaluées, l'important ne sera pas ce que nous avons réussi à accomplir, mais pour quelles raisons nous avons voulu les faire. C'est pour ça que la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que ton portefeuille.
Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent ou proviennent les sources de la vie. Vous savez, dans Matthieu 7, verset 21, Matthieu 7, verset 21, Jésus dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » seront sauvés. Pas tous n'entreront dans le royaume des cieux. Mais qui va y entrer ? Et là, Jésus dit, « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père » qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Ça veut dire des gens qui ont prophétisé. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Même des gens qui ont chassé les démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu est saint et il appelle son peuple à la sainteté. On peut se tromper soi-même ou bien tromper son monde, mais on ne trompe pas Dieu. Le Seigneur, dans sa miséricorde, nous donne toujours le moyen de revenir à lui. Nous sommes toujours encore dans les temps de grâce, mais le jour vient où nous devrons rendre compte, chacun pour nos vies. Et c'est bien de se poser les bonnes questions, parce que les bonnes questions amènent les bonnes réponses. Et c'est vraiment un temps de savoir, peut-être vous êtes ici, peut-être vous fréquentez depuis 10 ans, 15 ans, ou je ne sais pas combien de temps, Christ est vivant, mais peut-être vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Ou peut-être vous fréquentez d'autres assemblées, et peut-être vous n'avez jamais accepté Christ comme Seigneur. C'est le moment maintenant d'accepter Jésus-Christ, non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur. Ça veut dire... accepter Jésus-Christ comme Seigneur, ça veut dire que nous lui remettons tous les domaines de notre vie, tous les domaines de notre vie, et c'est plus nous qui décidons, mais c'est nous qui alignons notre volonté avec la sienne. Jésus l'a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Et la croix, c'est quoi dans ce contexte ? La croix, dans ce contexte, c'est l'endroit où la volonté de Dieu rencontre notre volonté. Et si notre volonté est contraire à celle de Dieu, nous prenons notre croix. Ça veut dire que nous crucifions notre volonté, que nous alignons notre volonté avec celle de Dieu. C'est ça la croix. Où nous nous soumettons à Dieu, comme Jésus l'a fait dans Gethsémané, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Ça, c'est la croix. Et ça, c'est un signe que Jésus-Christ est réellement le Seigneur dans notre vie. Qu'il n'est pas seulement notre Sauveur, mais qu'il est Seigneur. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et vous savez quoi ? Quand Jésus-Christ est Seigneur, il y a beaucoup de problèmes qui disparaissent. Parce que souvent, les problèmes sont là, parce que lui n'est pas le Seigneur. Alors, il y a tel problème, mais s'il est Seigneur, c'est lui qui se charge de tout. C'est lui qui s'occupe. Vous savez, un jour, il y a un homme comme ça. Il y a Jésus qui arrive chez quelqu'un. Et cette personne l'accueille, ouvre la porte. « Ah, bonjour Jésus. Ça va bien. Rentre et tout. » Il se met à table dans le salon. La table bien préparée. Tous les enfants sont assis, coiffés, gominés et tout. La femme maquillée, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tout est propre, tout est nickel, du parfum partout, des bougies partout, tout est magnifique. Jésus s'assoit, il mange et tout. Après, il dit, ah, j'aimerais bien visiter la maison. Elle dit, bah oui, pas de problème, c'est la chambre à coucher, ça c'est la cuisine. Et Jésus voit une porte. Est-ce que je peux aller dans cette porte ? J'aurais dit, ah non, mais pas cette porte. Pas cette porte. Parce que là, tu peux pas rentrer. Mais s'il est Seigneur, il peut rentrer dans toutes les portes de notre cœur. Il peut rentrer dans toutes les portes. Laissons-le ouvrir toutes les portes de notre cœur. Et là où il y a des domaines, où il y a des ténèbres, si lui vient, la lumière vient. Et les ténèbres doivent partir. Quand la lumière vient, elle est toujours plus forte que les ténèbres. Et s'il y a des ténèbres dans notre vie, c'est que peut-être Jésus n'est pas encore le Seigneur. Vous savez, la délivrance, c'est une chose. Mais Dieu ne te délivrera jamais. Dieu ne te délivrera jamais. Dieu ne te délivrera jamais de tes amis. Dieu te délivrera uniquement de tes ennemis. Tant que nous sommes amis avec le péché, Dieu ne nous délivrera pas. Nous devons haïr ce que Dieu est et aimer ce que Dieu aime. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et si nous avons la crainte de l'Éternel, Dieu nous délivrera. Amen. Mais Dieu ne nous délivre pas de ce qu'on aime, puisqu'on ne veut pas le lâcher. Si nous, on veut pas... Vous savez, un jour, il y a un homme, je vous dis sincèrement, hein, un homme est venu, il m'a gonflé, il m'a énervé, pardon. Il vient et il me dit, « Pasteur, j'ai toujours un problème avec les femmes. Il faut que je couche avec toutes les femmes. » J'ai fait, « Écoutez, la prochaine fois que vous venez, je vous coupe le truc. » Non, mais vous savez quoi? Il n'est plus jamais revenu. Le problème était réglé. C'était pas un démon. C'était pas un démon. C'était pas un démon. Vous savez, les gens, ils disent, oui, un démon m'oblige à faire ça, un démon m'oblige à faire ça. Non, non. Les démons, on les chasse, mais la chair, il faut la crucifier. Vous comprenez la différence? Il y a des choses qu'il faut chasser, et ça, c'est les démons, mais la chair, il faut la crucifier. Et c'est à toi de te considérer comme mort. C'est à toi de te voir comme mort. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ça, c'est la clé pour vivre dans la victoire. La clé pour vivre dans la victoire, c'est pas de lutter toujours contre le péché et d'être fixé sur le péché. La clé de la victoire, c'est de se considérer comme mort. Je suis mort, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Ça, c'est du 220 volts. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis par la foi dans le Fils de Dieu, disait l'apôtre Paul. C'est la clé pour vivre dans la victoire. Comme Christ s'est identifié à nous à la croix, nous nous identifions à lui. Et nous reconnaissons que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que quand le péché vient, ça n'a rien à voir avec moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça va? Ok. Dans Joël 2, versets 12 à 13, Dieu dit, « Revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce et est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » La Bible dit dans Romains chapitre 10, au verset 9, si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Donc si tu confesses le Seigneur, pas le Sauveur, Jésus-Christ comme Seigneur. Le mot grec c'est kurios, c'est le Seigneur. Si tu confesses Jésus comme Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur, donc si tu confesses comme Seigneur de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois à la résurrection de Jésus-Christ, écoute bien. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut? Tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire que tu l'acceptes pas juste comme Sauveur, mais comme Seigneur. Ça veut dire que tu lui donnes tous tes domaines, que nous lui donnons tous les domaines de notre vie. Il est Seigneur. Après, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Le verset 13 nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il est important pour nous de confesser de notre bouche, mais de croire dans le cœur. Est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Sauveur? Et est-ce que tu veux l'accepter comme Seigneur? Ça veut dire le patron de ta vie dans tous les domaines de ta vie. Ça veut dire que toutes les décisions que nous les prenons en accord avec la parole de Dieu. Vous savez, là j'ai discuté avec Jonathan, il y a des jeunes là, ils disaient oui, mais ils devaient partir avec... des jeunes aux États-Unis, il me dit, oui, mais ces jeunes-là, maintenant, cette jeune fille, elle sort avec un inconverti. Et l'autre aussi, elle sort avec un inconverti. Et l'autre aussi, elle sort avec un inconverti. Oh! Si Jésus est Seigneur, si Jésus est Seigneur, la Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Par quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Si Jésus est le Seigneur de ta vie, tu vas pas aller avec un inconverti. Parce que si dans cette décision, la deuxième décision la plus importante dans ta vie, avec qui est-ce que tu vas passer et finir le restant de tes jours, si dans cette décision Jésus-Christ n'est pas le Seigneur, dans le reste de ta vie, Jésus ne peut pas être Seigneur. Vous comprenez cela? Parce que la personne avec qui tu vas te marier, c'est quand même un peu important, non? Et c'est quand même important d'avoir le conseil de Dieu. Et c'est quand même important que cette personne, elle soit chrétienne, qu'elle soit née de nouveau. Parce que si elle n'est pas née de nouveau, elle n'a pas le même esprit que toi. Et elle ne voudra pas faire les mêmes choses que toi. Elle ne cherchera pas d'abord le royaume de Dieu et sa justice, mais elle cherchera d'abord les choses de ce monde, parce qu'elle a l'esprit du monde et qu'elle est du monde. Vous comprenez ? Oui, mais nous sommes libres. Mais t'es libre de quoi ? De faire n'importe quoi ? Non, tu es libre pour faire la volonté de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous avons été libérés. C'est pour ça que nous avons été affranchis. Pour pouvoir faire sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Sa volonté, elle est bonne. Elle est agréable et elle est parfaite pour chacun de nous. Dieu est bon et il a le meilleur pour nous. Amen. Oh, vous savez, alors il y a des fois des gens, oui, mais tu sais, ou tu sais, pasteur, ou vous savez, pasteur, il va déjà se convertir. Elle va déjà se convertir. Non, mais tu es en train de te mentir à toi-même. Tu es en train d'avoir des raisonnements et des hauteurs qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Tu commences à raisonner en toi-même des choses qui vont s'opposer à la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, elle dit, ne vous mettez pas à jouer étranger. Oui, mais tu comprends, il va se convertir un jour, ou elle va se convertir un jour, ou les choses se feront, ou tu comprends, non, je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre. Dieu ne me demande pas de commencer à discuter avec le diable, il me demande de me soumettre à sa parole, et sa parole me dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et cette parole était pour plusieurs jeunes qui sont ici. C'est facile, vous savez, le diable, comment il nous a ? Dans nos églises, dans nos jeunes, il y a des jeunes, ils viennent. Ils vont dans les églises, ils disent, oh, les filles, elles sont là, elles attendent depuis 5 ans pour un mari, elles prient et ci et ça. Puis moi, je viens. Je fais le chrétien. Quand on lève les mains, je lève les mains. Quand les gens disent Alléluia, je dis Alléluia. Quand je dis Amen, ils disent Amen. Et ils disent, oh purée, c'est le prince charmant. C'est lui que j'attendais depuis si longtemps. Wow! Le problème, c'est que c'est un loup déguisé en brebis. Alors demande à ton berger et regarde s'il porte les fruits. Les fruits de la nouvelle naissance. Regarde son caractère. Parce que des gens, des fois, ils s'imaginent qu'ils vont barrer quelqu'un et qu'ils vont changer la personne. Mais tu sais, elle va déjà changer. Oui, en pire. Comment tu sais qu'il y a vraiment un changement ? Comment est-ce que tu sais que la personne va se convertir ? Les statistiques disent que 1%. Écoutez bien, 1% se convertissent. Est-ce que tu veux prendre le risque ? Alors réfléchissez les jeunes, ou même les moins jeunes, ceux qui ne sont pas encore mariés. Et réfléchissez avant de prendre la deuxième décision la plus importante dans votre vie. La première décision la plus importante dans votre vie, Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. La deuxième décision la plus importante de votre vie, avec qui est-ce que je vais faire alliance ? Parce que c'est l'alliance du mariage. L'alliance est très important. J'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, hein, mais c'est vraiment l'alliance, si vous comprenez ça, c'est de la bombe. Ça vous amène dans une nouvelle dimension si vous comprenez ce qu'est réellement l'alliance. Mais dans le mariage, il y a l'alliance. C'est pour ça que quand l'homme pénètre la femme, en hébreu, le mot alliance, c'est bérite, je crois. Mais je me rappelle plus, je crois que c'est ça. Et ça signifie, on coupe une alliance. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours du sang qui coule. Dans une alliance, il y a toujours du sang. Parce que le sang, dans la Bible, représente toujours la vie. C'est pour ça que quand l'homme pénètre la femme doit être vierge, et le sang coule. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que ta vie m'appartient et ma vie t'appartient. Vous comprenez l'importance d'être vierge en se mariant ? Vous comprenez pourquoi Dieu ne demande pas des choses comme ça par hasard. Dieu il demande parce qu'il y a des principes et des lois spirituelles derrière tout cela. Le sang est très important. Mais je ne vais pas enseigner là-dessus, c'est un autre sujet. Mais ce qui est important, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, faites-le maintenant. Je vous encourage à le faire. Et pas juste à faire une prière de votre bouche, mais vraiment à croire dans votre cœur que Jésus-Christ est Sauveur et vous l'acceptez comme Seigneur dans votre vie. Vous lui dites, Seigneur, je me soumets à toi dans tous les domaines de ma vie. Et après, allez voir votre berger, allez voir des responsables qui vous enseignent, qui vous montrent dans la parole comment vivre en tant que chrétien. Venez au culte, venez aux réunions de prière, lisez la parole de Dieu, développez une relation personnelle avec Dieu chez vous à la maison. Et soyez conduits par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Ok. On va passer maintenant à un autre message. Comment résister aux tentations? La question est, quelle est la stratégie utilisée par l'ennemi, par le diable, pour neutraliser la croissance et la liberté en Christ des chrétiens? Quelle est la stratégie du diable? Le diable commence par nous tenter. C'est pour ça que le diable est appelé le tentateur. C'est le tentateur et il commence à nous tenter dans les domaines où nous sommes faibles ou en difficulté. Puis, il nous accuse d'avoir péché. Nous allons maintenant définir la tentation. Mais avant cela, nous allons lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie concrètement qu'il n'y a aucune tentation qui peut venir qui est plus forte que nous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La parole de Dieu est très claire. Si vous croyez autre chose, c'est que le diable a réussi à mettre en vous des semences de mensonges. Et c'est là qu'il pouvait avoir autorité dans votre vie. Parce que là où vous soumettez à lui, c'est là qu'il y a autorité. Il y a un principe très simple. À celui à qui tu te soumets, c'est celui qui a autorité sur ta vie. Si nous nous soumettons à Satan, c'est Satan qui a autorité dans notre vie. Si nous soumettons à Dieu, c'est pour ça qu'il est important que Jésus soit Seigneur. C'est Jésus qui sera Seigneur. Et c'est Jésus qui aura autorité. Et là où Jésus a autorité, le diable n'a pas d'autorité. Vous comprenez ça? C'est important. La tentation opère essentiellement en suscitant en nous l'envie de voir nos besoins humains, légitimes, satisfaits par les moyens qu'offre le monde, la chair et le diable, et non pas par Christ. Ça, c'est la tentation. Mais pour nous, il y a un verset qui est très important, qui va nous permettre aussi de résister à la tentation. C'est dans Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19, c'est une promesse de Dieu. Et cette promesse est la suivante. « Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Il est bien dit, « Dieu pourvoira à tous nos besoins. » Et le mot grec ici, « tout », signifie « tout ». Tout, à tous nos besoins. Amen. Dieu pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire. Ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. Et parce que nous sommes le peuple des promesses, nous marchons dans les promesses de Dieu. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Même des fois, nous ne le voyons pas encore. Nous savons que nous savons que nous savons que cela se réalisera. Et des fois, vous savez quand ça se réalise? Ça se réalise des fois quand on lâche. Quand on lâche prise. Quand on a réellement confiance. Vous savez, un jour, il y a un homme, c'est un chrétien, il se promène, et d'un seul coup, il se perd en pleine forêt. C'est dans la montagne. Et la nuit tombe. Et il fait nuit noire. Il ne voit plus rien. Et il marche, et d'un seul coup, waouh ! Il est au bord, il se rend pas compte, il tombe. Et il y avait un ravin qui était là. Il ne s'est pas rendu compte, il tombe. Et là, juste à se rattraper à une branche. Et il se tient à la branche. Et il prie, Dieu, aide-moi, Dieu, fais quelque chose. Et Dieu lui dit, lâche. Il dit, non, je ne peux pas lâcher, Seigneur. Je ne peux pas lâcher. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Dieu lui dit, lâche. Il dit, non, je ne peux pas lâcher. Aide-moi, Seigneur. Et Dieu lui dit encore une fois, lâche. Il dit, non, je ne peux pas. Bon, il arrête de prier parce qu'à chaque fois, il reçoit la même réponse. Et il ne veut pas obéir. Mais au bout de 2-3 heures, le jour commence à se lever. Et il commence à voir. Et il regarde, il était à 20 cm du sol. Des fois, il est bon de lâcher. Il est bon de lâcher. Mais vous savez, on veut tellement régler nous-mêmes nos problèmes et tellement régler nous-mêmes nos difficultés qui sont là. Et qu'est-ce qui se passe? On n'y arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'y arrives pas? On commence à se faire des soucis et on commence à s'inquiéter parce qu'on n'arrive pas. Mais en fin de compte, ça relève quoi? Ça relève qu'on est orgueilleux parce qu'on essaie de faire par nous-mêmes, on essaie de faire par nos propres forces, on essaie de faire par nos propres capacités au lieu de faire confiance à Dieu. Des fois, les situations, elles sont difficiles et on a besoin d'un miracle. Et j'ai une bonne nouvelle, le Dieu que je sers est le Dieu des miracles. Amen. Et il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Amen. Il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu est Dieu des miracles. Un miracle, c'est quand le surnaturel intervient dans le naturel. Un miracle, c'est quand les lois de la nature sont transgressées. Quand il y a quelque chose qui était impossible, Dieu le rend possible. Et nous servons le Dieu de l'impossible. C'est pour ça que tout est possible à Dieu. Et si nous commençons à voir et à marcher par l'esprit, et que nous commençons à voir l'invisible, c'est là que nous pouvons réaliser l'impossible. Mais nous devons voir l'invisible. Et nous, voir l'invisible, c'est marcher par l'esprit. C'est marcher par la foi, c'est pas marcher par la vue. Les gens du monde... Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ben je vois pas, ça n'arrive pas, c'est pas comme ceci. Ouh, je sens que c'est bon, ouh, je sens que c'est pas bon. Hein? Comme avant, vous avez été jeune là avec le mariage. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, je sens que je l'aime. Oh, je... Alors là, j'ai des papillons qui sont en train de monter partout. J'ai des sentiments. Mais les sentiments, des fois, ça ment, les sentiments. Ça ment, des fois. Mais je comprends pas, on s'aimait tellement, maintenant on divorce, on se tape dessus avec la poêle, et on roule la pâtisserie. Mais tout allait si bien au début, on s'aimait tellement. Mais c'est pas de cet amour que Dieu parle. Ça c'est l'amour des sentiments, c'est l'amour des émotions. Mais l'amour dont Dieu parle, c'est un amour sacrifice. C'est un amour où tu vis plus pour toi-même ou tu vis pour l'autre. Et ça c'est l'amour agapé, c'est un amour qui dure toujours. C'est l'amour de Christ à la croix, qui s'est offert lui-même pour nous, sans rien attendre en retour. Ça, c'est l'amour agapé. Et c'est cet amour que Dieu veut que nous aimons notre partenaire. Il y a une femme qui vient un jour, elle me dit, oui, mais j'aime plus mon mari. Je lui dis, mais tu l'as déjà aimé? Oh oui. C'était comment? Ben, au début, on s'est rencontrés. Mais qu'est-ce que je l'aimais? Mais tu l'aimais comment? Ben, mes sentiments, tout ça, c'était merveilleux, ici et ça. Mais les sentiments, ils sont pas toujours au top, hein. Enfin, chez moi. Des fois, je dois décider d'aimer ma femme. Parce que, vous savez, parce qu'elle comprend pas que j'ai toujours raison. Elle comprend pas ça. Alors, des fois, on se dispute. Et quand, un jour, c'était comme ça. On s'est disputé, tout ça. Et bon, j'avais raison, hein, à 100%. Hein. J'ai un bureau, et dans mon bureau, j'ai un lit. Ah, je suis dans mon bureau, et j'ai fait le bouddhiste, j'ai boudé. Et j'étais couché dans mon lit, comme ça, pas content. Et le Saint-Esprit me parle. Il me dit, va lui demander pardon. Je dis, Seigneur, je suis avec des erreurs, je vais pas lui demander pardon. Bah, c'est quand même, non, mais... Hein, je vais pas demander pardon, c'est elle qui a péché, hein. C'est pas moi. Et moi, je vais lui demander pardon. Alors, il y avait vraiment un combat. Vous savez ce que c'était? C'était mon orgueil qui résistait à Dieu. L'orgueil. Au lieu de se soumettre à Dieu. Non, mais bon, je vais pas demander pardon. Non, mais c'est l'autre, c'est moi qui a... Christ s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la croix. L'humilité précède toujours la gloire. Amen. L'humilité précède toujours la gloire. Et quand on s'humilie, la réconciliation vient. Quand on s'humilie, c'est puissant. Mais l'humilité, pour le monde, c'est une faiblesse. Parce que l'humilité, parce que le monde voit juste les soi-disant inconvénients ou... Mais elle ne voit pas tous les avantages qu'il y a de l'humilité. Mais ceux qui sont humbles et ceux qui sont doux, c'est ceux qui héritent de la terre. Je suis en train d'écrire un livre sur ça, sur l'humilité et la douceur. Parce que j'entends pas souvent prêcher ça dans nos églises. J'entends pas souvent prêcher sur ça. Pourtant, si nous voulons être comme Jésus, Jésus était doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Vous savez, l'humilité, c'est une force. C'est une puissance, l'humilité. Être humble, c'est être soumis à Dieu. Être humble, c'est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. que nous avons besoin de... Jésus était humble. Il a reconnu son incapacité. Il a dit, je peux rien faire. Je peux uniquement faire ce que je vois. Et je peux uniquement faire ce que j'entends. Faire le Père. Mais par moi-même, je peux rien faire. Ça, c'est la vraie humilité. J'ai écrit un livre sur ça. J'espère qu'il sortira bientôt, mais c'est vraiment un combat. Chaque tentation est une incitation à vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Je répète cela. Chaque tentation est une incitation à vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Pour les chrétiens, la tentation envoyée par Satan ne se concrétise pas que par des péchés grossiers. Mais il nous incitera à pousser ou à accepter quelque chose de beau et d'acceptable au-delà de la limite de la volonté de Dieu, de sorte que cela devient un péché. Je vais m'expliquer là-dessus, mais avant j'aimerais encore prendre un verset dans Corinthiens 6, verset 12. Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Pour rester à la tentation, il nous faut avant tout connaître la stratégie de Satan qui consiste à nous pousser au-delà des limites voulues par Dieu lorsque nous adoptons des comportements et des attitudes qui sont intrinsèquement bons et justes. Laissez-moi vous donner un exemple. Des fois, des gens me demandent, ils me disent « Oui, est-ce que tu peux venir servir ici, tu peux venir servir ça, est-ce que tu peux faire cela et cela ?» Je dis « Écoute, je vais prier. » Je vais chercher la volonté de Dieu. Humainement, ça peut paraître bien de faire quelque chose. Mais la question est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Écoutez bien, je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais des fois, il y a des gens qui vous demandent de l'aide, il ne faut surtout pas les aider. Aïe, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Laissez-moi vous expliquer. Il y a des gens, des fois, qui vont venir... Ils vont vous demander de les aider. Et si vous voulez aider, qu'est-ce que vous créez? Vous créez des assistés. Mais si vous leur apprenez à ce qu'ils puissent s'aider eux-mêmes, vous allez en faire des gens matures. Et vous allez en faire des gens responsables. C'est pour ça, des fois, il faut aider des gens. Et des fois, il ne faut pas aider les gens. Maintenant, la question est, comment savoir? La réponse est toujours la même. On est guidé par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits et marchent par l'Esprit. Ça veut dire des fois tu dois aider quelqu'un, mais des fois tu ne dois pas l'aider. Des fois tu dois prier pour quelqu'un, et des fois tu ne dois pas prier pour quelqu'un. Des fois des gens me disent, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je dis non. Je dis non. Et les gens me disent, mais comment ça, en tant que pasteur, vous ne priez pas pour les gens? Je dis non. Pourquoi? Parce que je veux que les gens apprennent à prier à eux-mêmes, qu'ils apprennent eux-mêmes à entendre la voix de Dieu, pour qu'eux-mêmes, ils puissent vivre un exaucement de prière, et leur foi va grandir. Ils ne vont pas vivre de ma foi, ils ne vont pas vivre de mes expériences, mais je vais en faire des gens matures. Vous comprenez ça? Parce que les gens matures, ils vont être dépendants de Dieu, ils ne vont pas être dépendants de moi. Moi, je ne suis pas là pour que les gens soient dépendants de moi, je suis là pour amener les gens à Christ, pour que les gens dépendent de Christ. Amen. Vous comprenez ma pensée? Et des fois, le diable, il peut nous amener quelque part, et on peut croire que c'est bon, mais l'ennemi du bon est des fois l'ennemi du meilleur. L'ennemi du bon est des fois l'ennemi du meilleur. Et Dieu a toujours le meilleur pour nous. Amen. C'est bien calme dans la salle. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. N'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais aussi vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Non, c'est bon, je peux continuer. Merci. Satan nous pousse toujours à agir indépendamment de Dieu, par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est les trois points que nous allons étudier ensemble pour savoir ce que cela signifie exactement. Adam, comme Christ, ont été tentés dans ces trois domaines. Mais Adam, comparé à Jésus, lui l'a échoué, Jésus a réussi. Jésus a triomphé en résistant à la tentation de Satan. En lui, nous avons toutes les ressources et la puissance nécessaires pour résister à chaque tentation que Satan nous envoie. Amen. Vous savez, c'est Christ qui vit en nous. C'est la victoire assurée. Amen. Si nous sommes comme Paul et nous sommes conscients que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, plus je suis conscient de cela, que Christ vit en moi, qu'est-ce qui va se passer quand le péché, quand la tentation vient? La tentation est là pour me conduire au péché. Mais si je suis en Christ et si Christ vit en moi, qu'est-ce qu'a dit la Bible? Que je suis mort au péché, et que parce que je suis mort au péché, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Ça va? Je parle hébreu ou non? Ça va, ça va? Ok. Vous comprenez ce que je veux partager avec vous? Ok. Trois, on dit amen. Les autres, non? Ok. Parce que c'est la vérité. La vérité, c'est que j'ai été crucifié. Pas je serai crucifié, mais j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Mais certains vont me dire, mais comment est-ce que j'ai pu être crucifié avec Christ? Alors que Christ a été crucifié il y a 2000 ans. Comment est-ce que j'ai pu être crucifié avec Christ alors que Christ a été crucifié il y a 2000 ans? Merci d'avoir posé la question. C'est une très bonne question, les amis. Un jour, je dialoguais avec Dieu et je disais, Seigneur, c'est pas juste que je sois pécheur et que je sois né pécheur. Et Dieu me dit, tu es né de qui? Et vous savez, quand Dieu nous pose une question, c'est pas qu'il connaît pas la réponse. Mais quand Dieu nous pose une question, c'est souvent qu'il veut nous amener à réfléchir. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai dit de mon père. Et Dieu me pose une autre question. Il me dit, ton père, il est né de qui? Je dis, pas de mon grand-père. Et Dieu me dit, et ton grand-père, il est né de qui? Je dis, pas de mon arrière-grand-père. Et d'un coup, ping, la lumière se fut. C'est ce qu'on appelle une révélation. Et j'ai eu une révélation. Ça veut dire que j'ai compris que je suis venu de mon père, qui est venu de mon grand-père, qui est venu de son grand-père, qui est venu de l'arrière-grand-père, et ainsi de suite jusqu'à Adam. C'est pour ça que quand je suis né d'Adam. Et Adam était pécheur. Et une semence pécheresse produit toujours un pécheur. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas naître d'une semence d'homme, et que Jésus est né de Dieu lui-même. Parce qu'il était né d'une semence d'homme, il serait né... Bingo, 10 points pour le candidat numéro 5. Et à la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? À la nouvelle naissance, nous naissons de Dieu. C'est pour ça, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, petits enfants, vous êtes nés de Dieu. Ok? Mais alors, comment expliquer? Comment est-ce que je pouvais être en Adam? Très simplement, j'étais en lui. Sa semence a produit jusqu'à mon père, qui lui a produit moi. Vous comprenez? Donc mon père, moi j'étais déjà dans mon père, mais mon père était déjà dans mon grand-père, et ainsi de suite, donc j'étais en Adam. Et comme c'était en Adam, c'est ainsi que nous étions en Christ. C'est pour ça que quand Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand Christ est assis à la droite du Père, nous sommes assis à la droite du Père. C'est pour ça que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est ça la vérité. Amen. Et plus nous nous voyons comme cela, plus nous voyons comme Dieu veut que l'on se voit, plus nous avons la même perception que Dieu. Tous les problèmes que nous avons sont des problèmes de perception. Laissez-moi vous donner un exemple pour bien comprendre ce que je veux partager avec vous. Mon fils vient. Papa, papa, ma voiture est cassée. Alors je prends la voiture, je regarde. Il y a une roue à mettre, il y a un petit truc à mettre, et voilà, la voiture est réparée. Pour lui, c'est un problème terrible. Pour moi, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que j'ai une autre perception que lui. C'est pour ça que Dieu veut qu'on ait la perception qu'il a. Et la perception qu'il a, pour avoir la même perception que lui, nous devons comprendre que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et quand on est assis dans les lieux célestes, tout a été mis sous nos pieds. Et nous régnons avec lui. Nous régnons avec Christ. Amen. C'est pour ça que l'ennemi est vaincu. Il est sous nos pieds. Amen. Alors faites pas une grande histoire avec le diable. Ça va? Le diable m'a fait, le diable m'a fait, le diable m'a fait. La vérité, c'est que le diable, il va dire, oh purée, celui-là, il s'est de nouveau réveillé ce matin, qu'est-ce qu'il va me faire encore? Oh là 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 là, il va de nouveau chasser les démons, il va de nouveau empiéter dans mon royaume, il va détruire mon royaume, parce que c'est pour ça que Jésus est venu, pour détruire les œuvres du diable. Amen. Je parle plus de Dieu que du diable. Parce que Dieu est plus grand que le diable. Je parle plus des miracles que Dieu fait que ce que le diable fait. J'ai rien à dire de ce que le diable fait. Parce que le diable peut uniquement faire ce que nous lui permettons qu'il fasse. Parce que si nous sommes morts en Christ, et si Christ vit en nous, nous sommes comme Jésus. Parce que la Bible, elle dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et plus nous pensons cela, plus nous renouvelons notre intelligence, plus nous alignons nos pensées avec celles de Christ, et plus nous avons la pensée de Christ, plus nous marcherons comme Christ a marché. Et qu'est-ce que Christ a dit? Le diable vient, mais il n'a aucune prise en moi. Si tu es mort avec Christ, et si nous avons crucifié la chair, le diable n'a plus de prise. Ça va? Mais nous sommes dans un combat. Et ce combat, c'est un bon combat. Un bon combat. C'est pas un mauvais combat. C'est un bon combat. Et ce combat, c'est le combat de la foi. C'est pour ça que notre foi soit toujours attaquée. Et si nous avons une mauvaise foi, pas la bonne foi, si nous avons la foi, le diable va me faire, le diable va m'attaquer, le diable va faire ci. Qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, c'est la peur que tu as, c'est pas la foi. Et la peur ouvre une porte. Comme Job il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. On est en plein combat spirituel, là. Ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Nous devons résister à Satan et lui donner l'ordre de partir si nous voulons connaître la victoire sur les tentations, les accusations et le péché. Premièrement, on va commencer avec la convoitise de la chair. Qu'est-ce que c'est que la convoitise de la chair? La convoitise de la chair, elle est dirigée vers nos appétits physiques et leur satisfaction dans ce monde. Satan s'est attaqué à l'appétit physique d'Adam et d'Ève, mais aussi à celle de Jésus, alors qu'il est dans le désert depuis 40 jours. Mais Jésus a refusé en déclarant qu'il n'agira pas indépendamment de la volonté de son Père. Vous voyez, le diable il voulait lui faire faire un miracle en dehors de la volonté de Dieu. Et ça, c'est un danger des fois quand on est dans le ministère. On vous invite. Il va y avoir des prophéties, il va y avoir ça et ça. Moi, je suis persuadé que Dieu va agir. Je suis certain. Parce que Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Il ne confirme pas le bonhomme, heureusement. Mais il confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Mais des fois, si vous êtes pas, si un prédicateur n'est pas mûr, il faut qu'un miracle se produise, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Même s'il n'y a rien qui se passe, je sais que je suis aimé de Dieu. Et je sais que je suis son chouchou. Toi aussi, tu es son chouchou. Amen. On est tous ses chouchous. Amen. Vous savez, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de résultat apparent, ou parce qu'il n'y a pas de résultat apparent, que Dieu n'a pas agi. Je suis persuadé que Dieu a agi. Déjà maintenant, dans les forteresses, dans les pensées, dans vos cœurs, il y a des choses qui ont été changées. Même si ce n'est pas visible. Même si ce n'est pas visible, je sais qu'il y a des semences qui ont été semées, et je sais que ces semences vont porter du fruit 30 fois, 60 fois et 100 fois. Amen. Parce que sinon, je ne prêcherai pas. Sinon, je ferai un autre boulot, je ferai boulanger ou mécanicien ou je ne sais pas quoi. Mais je ne serai pas prédicateur. Si je ne m'attends pas à ce que Dieu agisse, si je ne m'attends pas à ce qu'il n'y a pas de résultat, je vais faire un autre boulot. Vous comprenez? C'est normal que Dieu agisse quand on prêche sa parole. Pour ça, si vous êtes quand vous témoignez dans la rue, qu'est-ce que c'est qu'un témoignage? Un témoignage, c'est simplement ce que vous avez vécu. Vous le dites à quelqu'un. Et quand vous dites quelque chose que vous avez vécu, la vie de Dieu va être communiquée. Et ça, il y a quelque chose qui se passe. Si vous avez vécu une guérison, parlez à quelqu'un. Cette personne peut être guérie à travers la guérison que vous avez eue, à travers votre témoignage. L'Esprit de Dieu va prendre votre témoignage comme une arme contre l'ennemi et va guérir la personne. Mais c'est à vous de le faire. Vous êtes mes témoins, pas juste votre berger Ernest, puis peut-être deux, trois responsables, et puis moi, non, non, vous êtes mes témoins. Tous, vous pouvez tous témoigner. Amen. Dieu veut vous utiliser tous. Vous savez, je dis toujours aux gens, vous savez pourquoi Dieu m'utilise? J'ai vu des gens se lever de chaises roulantes, j'ai vu plein de miracles. Vous savez pourquoi Dieu m'utilise si puissamment? Vous savez pourquoi? Une des raisons pour lesquelles Dieu m'utilise si puissamment, c'est tout simplement pour vous montrer que s'il peut m'utiliser moi, il peut utiliser chacun de vous. Chacun de vous. Vous n'avez aucune excuse. Amen. J'ai aucun examen. j'ai rien réussi. Dans la vie, j'ai rien réussi, aucun examen. Si, j'étais en prison. Trois fois condamné. Vous voyez mon casier judiciaire? Enfin, si vous prenez mon livre, vous voyez les extraits. Parce qu'il y a quelqu'un qui a... Vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit un livre de témoignage. Et c'était faux, hein, son témoignage. Il a menti. Mais chez moi, vous avez les extraits du casier judiciaire. Enfin, pas du casier judiciaire. Vous avez les fiches de paye de la prison. Parce que je travaillais, moi, en prison. Hein. J'étais cuisinier. Toujours à la bonne place. Il y a les ordonnances de renvoi devant le tribunal et ainsi de suite. Non, mais il faut savoir se débrouiller dans la vie. Hein. J'étais toujours près des steaks, tranquille. Et là, j'avais tout le monde dans la bonne. Bon, tu fais ça et ça, je te filerai un steak en plus. Tac, tac, tac. Il faut s'arranger. Hein. Ok. En plus, on avait du vin. Pour faire la sauce. La sauce. Bon. Heureusement que j'ai rencontré Jésus. Parce que je ne sais pas où je serais mort, où je serais millionnaire, où je serais encore en prison. Je ne sais pas où je serais, mais ça ne serait pas glorieux. Satan nous incite à satisfaire nos besoins physiques par des moyens qui se trouvent hors des limites de la volonté de Dieu. Il nous tente par le biais de la convoitise de la chair. Toutes les choses bonnes peuvent être portées à l'excès. Par exemple, la nourriture. La gloutonnerie, la sexualité, c'est bon, mais dans les cadres de Dieu. Et un jour, il y a un homme qui vient comme ça, il vient vers un pasteur, et c'est un homme qui est gros, très gros. Et il dit au pasteur, « Pasteur, j'ai un démon qui m'oblige toujours à manger. » Et le pasteur lui dit, « Tu sais, cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière. La sexualité aussi, c'est quelque chose de bon dans le cadre de Dieu, dans le cadre du mariage. L'argent, c'est bon aussi. L'argent n'est pas mauvais. Mais la cupidité, c'est mauvais. Le repos physique, c'est bien. Mais la paresse, c'est plus bien. Vous comprenez? Ou la réserve, quand on est réservé, quand on ne parle pas, hein, n'importe comment, sans réfléchir. Oups, j'ai parlé sans réfléchir. Et j'ai de nouveau dit une bêtise. Non, non. Quand on est réservé, quand on réfléchit avant de parler, c'est bien. Mais le mutisme, c'est pas bien. Vous voyez, c'est tout le temps des excès. Chaque fois que vous sentez incité à satisfaire un besoin physique légitime, en agissant dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est que vous êtes tenté par le biais de la convoitise de la chair. Quand on résiste aux tentations de la convoitise de la chair, on affirme notre dépendance envers Dieu pour nos besoins naturels. Parce que nous demeurons attaché au CEP et à ses ressources. Et si nous cédons dans le domaine de la chair, la fécondité de notre vie chrétienne en subira les conséquences, car sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Amen. Les tentations les plus courantes dans le domaine de la chair sont les appétits physiques, la nourriture, le sexe, le confort, l'amusement, et ainsi de suite. Le deuxième point, c'est la convoitise des yeux. Cette tentation est dirigée vers notre égocentrisme et met en doute Dieu et sa parole. C'est choisir ce qui semble servir au mieux nos intérêts personnels, tout en ignorant le commandement de Dieu. Adam et Ève ont fait le choix de croire Satan qui leur proposait de ne pas mourir du tout, alors qu'ils étaient en danger de mort. Alors qu'ils n'étaient pas en danger de mort s'ils obéissaient à l'ordre de Dieu. Mais Satan a menti. Il les a tentés. Il les a séduits. La séduction, c'est nous faire croire que quelque chose... Quand on les séduit, c'est qu'on croit que quelque chose est vrai, alors que c'est faux. Et ça, c'est le plus terrible. C'est de croire que quelque chose est la vérité, alors que c'est un mensonge. C'est là qu'on les séduit. Ça, c'est terrible. Parce qu'on croit qu'on est dans la vérité, alors qu'on est dans un mensonge. C'est pour ça qu'il faut connaître la vérité. Parce que la vérité nous permet de reconnaître les mensonges. C'est le seul moyen pour pouvoir combattre le mensonge, c'est la vérité. Si on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas reconnaître un mensonge. C'est pour ça que la Bible a dit que nous avons un combat contre les hauteurs, contre les forteresses qui s'opposent aux connaissances de Dieu. Une forteresse, c'est souvent plusieurs pensées qui sont en nous et qui vont s'opposer à la connaissance de Dieu. C'est un endroit que Satan a bâti en nous, que nous croyons être vrai et où un démon peut loger. Mais j'ai écrit un livre sur ça, Pensée 2, où je parle beaucoup des forteresses, où je donne différentes définitions des forteresses. C'est souvent un endroit, ça peut être en nous, ça peut être dans une région, ça peut être sur un pays, ça peut être sur une région. Et ça peut avoir différentes influences. Et c'est important pour nous que nous reconnaissions les forteresses dans lesquelles nous sommes. Et ça dépend de notre culture, ça dépend de la famille, ça dépend de notre tradition. Il peut y avoir plusieurs influences qui peuvent créer des forteresses en nous, qui peuvent empêcher que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie, parce qu'on croit que c'est la vérité, alors que c'est un mensonge. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. On a la parole de Dieu qui est la vérité, et on a l'Esprit de Dieu qui nous éclaire ou qui nous révèle la parole de Dieu. Parce que sans révélation, on est sans frein. On a besoin de révélation. Et la révélation vient avec la relation. C'est pour ça que c'est important que vous ayez une relation personnelle avec Jésus, que vous ayez une relation personnelle avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous parle, peut-être dans un domaine de votre vie, ou peut-être qu'il y a un blocage qui est là. C'est pas toujours un démon, c'est des fois juste des pensées qu'on croit. J'y arriverai pas, je suis pas capable. C'est un mensonge, c'est pas un démon, c'est un mensonge qu'on croit, et ce mensonge parce qu'on le croit, et que d'autres mensonges confirment ce mensonge, ça devient une forteresse en nous. Et c'est là qu'on ne peut plus avancer, parce qu'il y a ce blocage dans notre pensée. C'est pour ça qu'il faut renouveler notre intelligence. C'est pas forcément un démon qu'il faut chasser, c'est notre intelligence qui doit être renouvelée. Qu'on puisse, je prie tout par celui qui me fortifie. Amen. Ça c'est la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, elle dit jamais que tu n'y arrives pas. La parole de Dieu a dit que tu pries tout par celui qui te fortifie. Mais la parole de Dieu dit que tu n'y arrives pas tout seul. Mais je prie tout par celui qui me fortifie. À nouveau, en dépendance avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Qui croit en Dieu. Amen. Satan a tenté Jésus par le même billet, en le défiant de prouver sa divinité. Mais Jésus n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce qu'il connaissait son identité. C'est important que nous soyons fondés et enracinés dans notre identité. Nous sommes des chrétiens, des petits Christ. Amen. C'est ce que nous sommes. Le Père et sa connaissance de la parole de Dieu lui donnaient toute la sécurité nécessaire. La convoitise des yeux nous éloigne de la parole de Dieu et érode notre confiance en Dieu. Nous voyons ce que le monde peut nous offrir et nous le désirons plus que notre relation avec Dieu. Progressivement, nous accordons plus de crédit à nos propres perspectives d'avenir qu'aux commandements et aux promesses de Dieu. C'est ça le péché. Nous sommes attissés par la soif de ce que nous voyons. Nous nous précipitons sur tout ce qui s'offre à nous, croyant en avoir besoin et persuadés que telle est la volonté de Dieu pour nous. Et c'est là que nous sommes séduits. Si nous confions notre propre intelligence et nos propres instincts aux dépens de la parole de Dieu, nous tomberons dans les tentations. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est une protection pour nous. Je serre ta parole dans mon cœur, disait David, afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, nous devons la serrer dans notre cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Mais pour la serrer dans notre cœur, nous devons la lire, nous devons la méditer, nous devons l'étudier. C'est pour ça que j'ai une école par correspondance. Vous recevez des CD pour vous enseigner, pour vous former. Et c'est un combat de faire cette école, je vous le garantis. Parce que le diable ne veut pas que vous soyez libre, il ne veut pas que vous soyez enseigné. Il ne veut pas que vous connaissiez la vérité. Il ne veut pas que vous grandissiez, que Christ grandisse en vous. C'est un combat. Quand vous résistez, quand nous résistons aux tentations de la convoitise des yeux, on affirme notre dépendance envers Dieu et notre confiance en sa parole. Le troisième point, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie pousse l'être humain à se mettre en avant et à se glorifier lui-même. Je répète, l'orgueil de la vie pousse l'être humain à se mettre en avant et à se glorifier lui-même. Mais la Bible dit que celui qui se glorifie de me connaître. Que si nous nous glorifions, nous nous glorifions de le connaître lui. Amen. Pas des œuvres, pas ce que Dieu fait au travers de nous. Vous savez, je suis un canal pour Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Au début de mon ministère, quand j'ai commencé le ministère, je me rappelle, j'ai commencé avec la délivrance. Et il y avait 50 ou 60 de personnes, je ne sais plus exactement la salle. Et j'étais assis comme ça, et d'un coup Dieu me parle. Il me dit, tu vas voir ma gloire, mais ne touche jamais à ma gloire. J'ai dit, ouf, je tremblais sous ma chaise. Tu vas voir ma gloire, mais ne touche jamais à ma gloire. Ne touchez jamais à la gloire de Dieu. Jamais. Parce que là, c'est des limites où Dieu... C'est pas bon. Vous avez vu le Nebuchadnezzar qui mangeait l'air par terre, il se glorifiait ici et ça, comme un animal il était après. Vous savez, si Dieu vous utilise, et si Dieu vous utilise pour qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges, ou quoi que ce soit, donnez toujours la gloire à Dieu. À lui seul revient toute la gloire. Vous savez, vous connaissez, moi je me rappelle toujours de mon passé, et ça me permet de le glorifier lui. Parce que quand je me rappelle mon passé, je dis, purée, mais de là où je viens, j'ai aucun mérite. Parce que des fois, l'orgueil, c'est de venir, vous savez, l'ennemi, oh, t'as vu, quoi, toi, tu pries, les démons, ou quoi, ceci, vous savez, l'ennemi, il vient, il essaie de vous tenter, hein, pour que vous commenciez à vous gonfler. Mais le Saint-Esprit a un ministère de dégonflage. Il va très vite te dégonfler. Ne t'inquiète pas pour ça. La position d'autorité qu'avaient Adam et Ève dans le jardin avec Dieu venait de leur dépendance et de leur intimité avec Dieu. Ils avaient une autorité. Et Dieu voulait régner sur cette terre. Parce que la Bible a dit dans Psaume 115, je crois que c'est le verset 19, que la terre et les cieux les cieux appartiennent à Dieu, mais qu'il a donné la terre aux hommes. S'il a donné la terre aux hommes, c'est pour que nous, on règne sur cette terre, mais qu'on règne en étant dépendant et en faisant sa volonté. C'est pour ça que nous pouvons prier que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Parce que Dieu voulait que sa volonté s'exerce sur cette terre. Et sa volonté sur cette terre, c'est la même qu'il y a au ciel. Et la volonté qu'il y a au ciel, c'est qu'il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas tous ces problèmes. C'est pour ça que Dieu nous donne l'autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour détruire les œuvres du diable. Amen, amen. Nous ne devons pas accepter la maladie, parce que la maladie vient du diable. Elle ne vient pas de Dieu. Amen. C'est clair ? Ok, parce qu'il y a des fois les chrétiens ils disent « Oh, je suis béni, je suis malade, ne prie surtout pas pour moi pour que je sois béni. » Non, ben, si vous êtes malade, si c'est une bénédiction, moi je ne veux pas de ces bénédictions. Et il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Mais la maladie n'est pas une bénédiction. La maladie est une malédiction dans la Bible. Et Jésus a porté nos maladies à la croix. Ne portons pas ce que Jésus a porté à la croix. Amen. Et il y en a qui disent « Mais c'est ma croix que je dois porter. » Mais c'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi. De croire qu'une maladie, c'est porter ta croix. Porter notre croix, c'est pas ça. C'est comme j'ai expliqué avant, quand notre volonté, elle est différente de celle de Dieu, porter notre croix, c'est s'aligner avec lui. Mais c'est pas porter une maladie. Nous n'avons pas à porter ce que lui a porté à la croix, parce que c'est annuler l'œuvre de la croix. Alors si tu es malade, n'accepte pas cette maladie. Ça va ? Nous devons combattre ces choses et détruire les œuvres du diable. Amen, amen, amen. Satan, les tentant, en leur mentant sur leurs conditions, ils deviendraient comme Dieu, les a poussés à désobéir, afin de leur faire perdre la position d'autorité que Dieu avait donnée. Et Satan est devenu le Dieu de ce monde. 1 Jean 5, verset 19 nous dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier gît dans le méchant, sous la coupe de l'esprit du mal. » C'est la tentation qui est là d'être maître de notre destin, de régner sur notre monde et d'être notre propre Dieu. La tentation de l'orgueil de la vie est destinée à nous détourner de l'adoration de Dieu et à saper notre obéissance à Dieu en nous poussant à prendre notre vie en main. Chaque fois que nous avons l'impression de ne pas avoir besoin de l'aide ni des instructions de Dieu, de pouvoir mener notre vie sans le consulter, de ne devoir flécher le genou devant personne, attention, c'est l'orgueil de la vie. Parce que quand nous résistons aux tentations de l'orgueil de la vie, on affirme notre dépendance envers Dieu et notre adoration pour lui seul. Écoutez bien, je finis avec cette phrase. Vous pouvez croire que vous servez votre personne, mais chaque fois que vous cessez d'adorer et de servir Dieu, c'est en réalité Satan que vous adorez et servez. Si au contraire, notre vie se caractérise, par l'humilité et une obéissance à Dieu qui le glorifie, nous ne tomberons pas dans la tentation. Ces tentations surviennent toujours afin de détourner notre adoration et notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Nous avons vu que la tentation s'attaque par les trois billets. Je peux finir avec ça, une minute. Prenons la tentation s'attaque par trois billets à des principes essentiels. La convoitise de la chair, qui remet en cause la volonté de Dieu dans notre vie et nous pousse à abandonner notre dépendance, relation vis-à-vis de Dieu. La convoitise des yeux, qui remet en cause la parole de Dieu dans notre vie et nous pousse à abandonner notre confiance en Dieu. Et l'orgueil de la vie, qui remet en cause l'adoration de Dieu dans notre vie et nous pousse à abandonner notre obéissance à Dieu. Chaque tentation est un défi à l'une ou plusieurs de ces valeurs à laquelle Satan veut nous soumettre. Il nous tentera dans les domaines où nous sommes le plus vulnérables. Si nous avons un seul de ces points sans surveillance et où nous sommes faibles, il nous tentera. Mais la bonne nouvelle, c'est quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. Parce que là où nous sommes faibles, nous devons reconnaître que nous avons besoin de lui. C'est quand je suis faible que je suis fort. Amen.